Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Bien, bonsoir aux auditrices, aux auditeurs du Principe Actif. Donc on est mardi 30 mai. C'est donc la deuxième émission mensuelle d'Amnesty International, le groupe d'Évreux. Et une heure consacrée à la défense des droits humains et à nos campagnes, aux campagnes d'Amnesty par rapport à ce thème-là. Encore un ordre du jour assez chargé aujourd'hui, comme d'habitude. Donc on va essayer d'être le plus complet possible et de ne pas trop s'étendre à chaque fois. Mais il y a quand même un certain nombre d'informations indispensables à vous donner. On est là pour ça. Et autour du micro, ce soir, il y a Edith.
Bonsoir. Alors chargé, Didier, je ne dirais pas forcément ça, mais il y a beaucoup de pays. Et
oui.
Dans beaucoup de pays, il se passe des choses et on a envie de vous faire profiter des connaissances qu'Amnesty nous donne. Je crois que c'est plutôt ça.
Exactement. C'est ce que je voulais dire. Donc Edith, et il y a Ronan qui est en train de s'activer à ses boutons et à ses disques.
Bonsoir.
Et il y a moi-même.
Ah ben Didier, ben voilà Didier. Alors on est trois.
On est
un
trois.
Trio.
On est trois ce soir. Bon, quelquefois on est quatre, cinq, ça arrive, mais ce soir on est trois. Mais enfin, de toute façon, ça ne change rien. On est là pendant une heure. Donc voilà, pour commencer l'émission, je vais vous lire une lettre ouverte qui est parue en fin de semaine dernière sur le site d'Amnesty et qui est destinée à Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron. Alors moi, je vais lui donner un mauvais point à Monsieur Emmanuel Macron et après, il y a Edith qui va prendre le relais.
Un tout petit
et
bon
qui
point
va
supplémentaire.
Nuancer
voilà, on va
un peu nos critiques. Parce que je vous rappelle simplement que Monsieur Emmanuel Macron, quand il a répondu aux 10 questions d'Amnesty par rapport à la défense des droits humains, il y a répondu.
Quand il était candidat,
bien sûr,
avant
son élection. Contrairement à l'autre candidate qui, elle, n'a fourni aucune réponse aux 10 mêmes points. Et donc, il avait répondu en disant que par rapport à l'état d'urgence, il s'engageait à prendre toutes les mesures pour que l'état d'urgence en France soit, je ne sais pas comment on dit, enfin ne soit pas prorogé, voilà, soit supprimé du moins, dans les meilleurs délais. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'à la suite des attentats de Rochester, très récemment en Grande-Bretagne, il a décidé de demander au Parlement de prolonger l'état d'urgence jusqu'au mois de novembre. Donc évidemment, ça nous fait bondir. Et donc Amnesty a publié ce communiqué. À l'issue du Conseil de défense tenu ce mercredi matin, alors il s'agit de mercredi de la semaine dernière, hein, bien sûr, le président de la République a annoncé qu'il demanderait au Parlement la prolongation de l'état d'urgence jusqu'au 1er novembre 2017, ainsi que la discussion d'une nouvelle loi pour lutter contre le terrorisme. La veille de cette réunion, nous, Association de défense des droits, avocats et universitaires, je vous en donnerai la liste à la fin, avions envoyé un courrier au président de la République lui demandant d'avoir le courage de ne pas renouveler une fois encore l'état d'urgence déclaré inopérant dans la lutte antiterroriste par des missions de contrôle parlementaires. Nous regrettons que le président de la République et son gouvernement aient annoncé aussi rapidement et sans concertation des acteurs de la société civile qui travaillent sur le sujet, leur volonté de renouvellement de l'état d'urgence. Leur engagement à évaluer les politiques publiques trouvait pourtant sur le sujet que l'état d'urgence sur le sujet de l'état d'urgence, un motif impérieux d'être mis en pratique immédiatement. Qu'en est-il de l'évaluation de l'efficacité et de la constitutionnalité du millefeuille juridique sécuritaire mis en place ces 5 dernières années au fil des différentes lois antiterroristes? Il y a déjà eu 5 lois en 3 ans, par exemple, et plus de 10 en tout. Alors que de plus en plus souvent, des mesures antiterroristes ou liées à l'état d'urgence sont appréhendées par les spécialistes comme relevant de la communication politique davantage que de la logique opérationnelle. Quelle évaluation a été faite sur l'impact sur l'état de droit, les libertés fondamentales ou la cohésion sociale? De même, la réflexion sur une réorganisation des services de renseignement, telle qu'annoncée par le président, au profit d'une meilleure lutte antiterroriste, ne devrait-elle pas être menée à son terme avant toute proposition de nouvelle loi antiterroriste ou sécuritaire? Nous rendons ici public notre courrier au président qui reprend de façon synthétique la plupart des revendications que nous portons. De par nos expériences respectives, nos travaux et le dialogue avec certaines institutions, nous avons acquis la conviction de l'inefficience de l'état d'urgence et de son caractère contre-productif. Alors voici donc cette lettre. Monsieur le Président de la République, le Conseil de défense et de sécurité nationale que vous avez convoqué demain se réunira, donc c'était la semaine dernière encore une fois, se réunira moins de deux jours après que le Royaume-Uni ait été durement frappé par une action terroriste. Nous souhaitons d'abord exprimer notre solidarité à l'égard des victimes et de leurs proches. Ce drame ne vous dégage toutefois pas de la responsabilité que vous confie la Constitution de rétablir le fonctionnement régulier des institutions. L'état d'urgence ne favorise en rien la protection de nos concitoyens et empêche au contraire de concevoir une réponse de long terme à la menace du terrorisme international. Nous, membres actifs de la société civile, assistons avec inquiétude à ce basculement normatif se diffusant durablement dans le droit en portant une atteinte insupportable aux libertés fondamentales, libertés pour la garantie desquelles nous nous battons et que nous ne voulons pas voir réduites sous la pression de la menace terroriste. La menace qui pèse sur la France comme sur tant d'autres pays d'Europe et du monde reste et restera longtemps élevée. Plus de 18 mois après son déclenchement, face à une menace terroriste persistante et latente, les conditions juridiques de prolongation de l'état d'urgence, le péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public ne sont pas réunis. Nous pensons que la seule audition des services de renseignement ne vous suffira pas pour avoir une vision complète de la situation. L'appréciation objective de la situation actuelle commande d'entendre l'ensemble des acteurs, juristes spécialisés, universitaires, avocats spécialisés, associations qui accompagnent les personnes visées par les mesures, éducateurs, médiateurs, qui vous éclaireront sur les effets toxiques de l'état d'urgence pour certaines communautés comme pour l'ensemble de la société française, ainsi que sur l'efficacité de la lutte contre le terrorisme elle-même. De par nos expériences respectives, nos travaux et le dialogue avec les institutions, nous avons acquis la conviction de l'inefficience de l'état d'urgence et de son caractère contre-productif. Nous faisons ici écho au bilan dressé par la Commission des lois de l'Assemblée nationale, chargée du contrôle parlementaire de l'état d'urgence, et par les autorités indépendantes, comme le Défenseur des droits, la Commission nationale consultative des droits de l'homme ou encore le Commissaire européen des droits de l'homme. La Commission d'enquête parlementaire sur les moyens mis en œuvre dans la lutte contre le terrorisme a affirmé clairement que s'il a été réel, cet effet déstabilisateur lié à la surprise des opérations menées semble s'être rapidement amenuisé. En contournant la justice antiterroriste, en épuisant les forces de sécurité, l'état d'urgence s'avère même à long terme non seulement inefficace, mais aussi contre-productif. Nous tenons par ailleurs à vous rappeler le coût social, politique et institutionnel très élevé de l'état d'urgence qui utilise des mesures impliquant des atteintes graves aux libertés individuelles sans contrôle en amont du juge judiciaire et sans que le contrôle a posteriori du juge administratif permette de compenser cette absence de contrôle a priori. Un régime d'exception ne saurait durer si longtemps impunément pour la République et ses citoyens. Il tente à fragiliser la séparation et l'indépendance des pouvoirs, en particulier au prix d'une déjudiciarisation s'installant durablement dans notre paysage juridique. Notre droit commun, déjà de plus en plus imprégné de dispositions dérogatoires aux principes fondamentaux de la Constitution, se retrouve de facto disqualifié par la longueur de l'état d'urgence et cela nous inquiète pour l'avenir. Monsieur le Président, vous avez plusieurs fois affirmé que vous souhaitiez réconcilier la France. Des vies ont été et sont encore bouleversées par des mesures disproportionnées et discriminatoires. Assignation à résidence se prolongeant de manière indéfinie, fermeture prolongée et non motivée de certains lieux de culte, multiplication des contrôles aux faciès, stigmatisant les personnes de confession musulmane ou supposées-elles, autant d'éléments dont l'efficacité dans la lutte contre le terrorisme n'a jamais été démontrée. Au fil des mois, nous avons documenté de nombreux abus commis contre des personnes en vertu des pouvoirs d'exception conférés par l'état d'urgence. Voilà. Bon, je vais vous, effectivement, il y a Nidhit qui me montre la longueur du texte.
C'est long, c'est intéressant, mais c'est un peu long.
Donc, on va effectivement s'arrêter là. Bon, après, il y a encore quelques paragraphes, mais qui sont en fait des développements de ce que vous venons de dire. Donc, encore une fois, Amnesty International, avec, alors ça, je vais vous dire, par contre, la liste des co-signataires. Donc, il s'agit de Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, Action droit des musulmans, donc Amnesty International, bien sûr, Club des droits, justice et sécurité, European Prison Limitation Network, c'est un organisme de contrôle des droits, de respect des droits en prison au niveau européen, Human Rights Watch, la Quadrature du Net, la Ligue des droits de l'homme, l'Observatoire international des prisons, le Syndicat des avocats de France et le Syndicat de la magistrature. Et il y a quelques avocats signataires à la date de la semaine dernière. Alors, il y en a sûrement plus depuis. Mais il y a maître Arié Halimi, maître Asif Harry et maître William Bourdon. Voilà. Donc, encore une fois, nous protestons énergiquement contre la prorogation de l'état d'urgence qui ne sert à rien si ce n'est à remettre en cause nos libertés et qui ne sert pas dans la lutte antiterroriste.
Ce qui est compliqué, je pense, même par rapport à Macron qui, avant, en tant que candidat, se disait « bah oui, on va peut-être réfléchir et tout », c'est cette politique de parapluie. Oui. Et de se dire qu'en tant que politique, actuellement, ne pas mettre ça en avant et si quelque chose arrive. Il y a vraiment une peur par rapport à ça. Et la problématique, c'est que les arguments comme ceux d'Amnesty, comme ceux de toutes ces associations qui sont dans du réel, qui ont fait vraiment une étude de ce qui s'est passé et de la, on va dire, entre guillemets, de la rentabilité de l'état d'urgence, eh ben, c'est pas assez fort. Il faudrait vraiment que le citoyen français se bouge. C'est ça qui manque. Oui. Pour que le politique s'autorise à ne pas prendre la politique du parapluie partout. Et,
bien sûr.
C'est vraiment ça aussi. Alors donc, c'est à chacun d'entre vous de dire, bah oui, OK, on a vu la politique de l'état d'urgence, c'est bon, trois jours après un attentat comme il y en a eu au Bataclan, mais après, ça ne sert plus à rien. On a assez d'arsenal dans nos lois pour pouvoir faire quelque chose. Mais à chacun de le dire pour que le politique s'autorise à le faire.
Ce qui est dit dans ce qui est rappelé dans cette lettre, c'est que maintenir l'état d'urgence, en fait, le seul but, c'est principalement, par rapport à ce que tu viens de dire, Edith, c'est principalement de faire de l'annonce au niveau de l'opinion publique, de dire effectivement on fait des choses. Bon, il s'avère qu'en fait, au niveau de l'efficacité, c'est zéro. Et qu'on nous, par exemple, régulièrement aux informations, on nous cite le nombre d'attentats terroristes qui ont été déjoués par les forces de sécurité, et c'est vrai, et ils sont bien plus nombreux que les attentats qui ont réellement eu lieu.
Et ce n'est pas l'état d'urgence qui a permis ça.
Mais ce n'est pas l'état d'urgence. L'arsenal judiciaire est déjà largement suffisant pour que les forces de police et les différentes forces d'enquête soient en mesure de déjouer ce genre d'attentat sans avoir besoin de passer par un état d'urgence qui est problématique en termes de liberté publique.
Tout à fait, mais éduquons la population, et faisons-la... prendre.
Quand tu disais du con, je crois que tu me parlais à Macron, excuse-moi.
Mais non,
j'ai eu un doute tout d'un coup.
Bon, Ronan, aide-moi, s'il te plaît.
Non, je vous écoute.
Non, mais je pense, voilà, il y a vraiment des peurs et des peurs qui sont utilisées et c'est compliqué. Voilà. Mais on va continuer, nous, à leur demander, à nos politiques, de regarder réellement ce qui se passe.
Tout à fait. Et avant que tu prennes la suite, Edith, juste un dernier petit mot. Ça m'a fait penser, quand j'ai lu ce communiqué, à une émission que j'ai vue, moi, c'était sur Arte, il y a quelques jours, et qui expliquait de façon bien plus intéressante que ce qu'on nous balance aussi aux informations de façon tellement concentrée que ça n'explique rien, l'origine du terrorisme et entre autres tout ce qui s'est passé depuis les attentats du World Trade Center, la guerre en Irak, le Patriot Act de George Bush, etc. etc.
Ça, Amnesty a donc parlé pas mal.
On en a
quand même,
déjà
ça
beaucoup parlé,
chose,
mais cette émission-là qui ne parlait pas d'Amnesty, mais qui reprenait tout le dossier depuis le début et qui était extrêmement bien argumentée, et qui faisait parler des politiques, dont de Villepin, par exemple, donc pas uniquement des gens de marqués politiquement à gauche, hein, et qui expliquait bien que, de toute façon, l'arsenal antiterroriste à l'heure actuelle, les causes du terrorisme ne sont pas là. Donc, effectivement, si on veut jouer sur les causes, il faut se poser les questions en termes de massacres en Irak, en Iran, en Syrie, enfin, etc., etc. Les causes du terrorisme sont là. Et c'est pas autre chose que ça. Donc, évidemment, ça paye moins, c'est moins tape à l'œil que de voter un état d'urgence, mais c'est sans doute à long terme, et il n'y a pas d'autre choix que de jouer sur le long terme, bien plus efficace.
Tout à fait.
Donc tu voulais par contre, toi,
dire à M. Macron que
finalement, il avait fait des choses bien aussi.
On ne va pas aller jusque-là. On va dire qu'une une action qu'il a pu faire ce lundi par rapport à la visite du président Poutine...
C'était pas à Versailles ?
Par là, il a dû se balader. Moi, ouais. J'y étais pas. Hein, mais
a priori, c'était à Versailles.
Mais voilà. Bon, il a fait ce qu'il avait dit, et voilà. On va juste noter ça. Alors moi, je pense qu'on en avait parlé il y a un mois. C'est la Tchétchénie et la répression par rapport aux homosexuels.
Oui, ça devait être il y a un mois, effectivement.
Voilà. Donc effectivement, il y a eu un rassemblement. Ce lundi 29 mai sur le parvis des droits de l'homme au Trocadéro, quelques heures avant qu'Emmanuel Macron ne rencontre Vladimir Poutine à Versailles. Et le thème de cette manifestation organisée par Amnesty était stop à l'homophobie en Tchétchénie. Alors, la volonté, effectivement, d'Amnesty, donc sa vice-présidente, nous dit que nous voulions qu'Emmanuel Macron fasse pression sur Vladimir Poutine, qui, à son tour, fasse pression sur Ramzan Kadyrov, le président tchétchène, qui persécute en toute impunité les homosexuels avec la bénédiction des autorités russes. Ça fait penser au Matryoshka, vous savez, la petite poupée russe. Il y a le petit, il y a le grand, et puis en fin de compte, ils sont tous, ils regardent tous dans la même direction. Alors, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas, peut-être quelques-uns, à écouter Principe Actif il y a un mois, ce qui se passe en Tchétchénie, c'est dénoncé aussi par le journal russe indépendant Novaya Gazeta, qui avait indiqué que plus qu'une centaine de personnes suspectées d'être homosexuelles avaient été récemment enlevées. Amnesty avait aussi ses sources et dit que ces hommes enlevés avaient été soumis à la torture et à des mauvais traitements et qu'ils avaient été forcés de dénoncer d'autres personnes gays qu'ils connaissaient. Donc le journal russe a été en mesure de confirmer qu'au moins 3 hommes ont été tués par leurs ravisseurs. Et ce journal a publié aussi plusieurs témoignages révélant les informations sur des lieux de détention secrets en Tchétchénie où les hommes homosexuels ont été enlevés, retenus et torturés. Alors, on a parlé de camps. Alors, ce n'est pas réellement des camps, ce sont les endroits où les Russes torturaient les Tchétchènes pendant les 2 guerres de Tchétchénie. Voilà. Comme quand on réutilise les lieux, mais de façon tout à fait, on va dire, tout à fait horrible. Alors, moi, j'ai entendu aussi sur France Inter la journaliste, je ne sais plus son prénom, l'oiseau.
C'est la sœur de la chanteuse.
Manon.
Oui, la sœur de la chanteuse.
Qui parlait effectivement, qui a fait beaucoup de reportages en Tchétchénie, qui disait non, ce ne sont pas des camps, mais des anciens lieux de détention où les Russes torturaient les Tchétchènes. Donc, il y a ces hommes qui ont été tués, ils ont été humiliés, et il y a aussi la position de la Tchétchénie qui disent nous, on n'a pas d'homosexuels en Tchétchénie. En premier temps, les Russes ont considéré ces informations comme des rumeurs, désignant des actes commis contre des gens à une orientation sexuelle non traditionnelle. C'est-à-dire qu'il y a une négation, de ce qui peut se passer.
C'est formidable le vocabulaire quand même.
Et donc, ce qu'on peut mettre aussi là, puisque je suis au niveau de l'Europe, on peut dire que Angela Merkel, qui a vu Vladimir Poutine il y a quelques jours, elle aussi a essayé d'user de son influence pour que les droits des homosexuels soient respectés en Tchétchénie. Le président russe a demandé trois jours après au pouvoir judiciaire et sécuritaire de soutenir l'enquête diligentée par la déléguée des droits de l'homme auprès du Kremlin. Alors, ce que dit Amnesty, c'est que le président de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, est le président d'une république autonome, mais cette république n'est pas indépendante. Nous partons du principe que Vladimir Poutine va le rappeler à l'ordre si le scandale devient trop gênant pour la Russie. Alors voilà, on attendait tout à fait notre nouveau président, savoir ce qu'il allait faire. Alors, ce que moi j'ai pu noter, bon, j'ai pas trop regardé les journaux aujourd'hui, mais lundi soir, il y avait un petit communiqué qui mettait « Le président de la République a également encouragé Vladimir Poutine à faire la vérité sur les arrestations et les persécutions contre les homosexuels en Tchétchénie, une république qui fait partie de la Fédération de Russie. »
Oui, c'est ce que j'ai entendu aussi.
Je l'ai vu même.
Voilà, donc c'est le...
Tu as vu qui?
J'ai vu Poutine, on le traduisait.
T'as vu Poutine?
Oui.
À la télé.
T'étais à Versailles?
À Versailles, chacun dans un beau siège.
Mais tu y étais aussi, toi?
Ah, non, j'étais dans ma télé, moi.
Alors, on peut dire que Didier, voilà, on lui donne un bon point.
Pour à qui?
Au président Macron.
Pas à Poutine, hein?
Pas à Poutine. Poutine, il a du boulot.
J'arriverai pas à donner un bon point.
Moi, je pense qu'on peut lui donner un bon point parce qu'il a osé.
Mais oui, Macron.
Il a dit dans la conférence de presse, comme dit Ronan. Donc voilà, un bon point. Mais
il a au moins tenu ses engagements sur les interventions par rapport à Poutine, oui.
Voilà, sachant aussi qu'en Russie, eh bien, si on fait des manifestations pour les droits LGBT, on peut se faire aussi arrêter.
Mais c'est bizarre parce que quand je l'ai vu ça hier, Poutine, il avait l'air étonné de ce qui se passait là-bas.
Il y a déjà Angela qui lui a dit, il y a Macron qui lui a dit.
Oui, mais il joue très bien la comédie, il est comme tout le monde.
Bon comédien, il était là, mais je l'ai vu, il avait l'air vraiment étonné.
Eh bien, bien sûr, mais non.
Alors, on peut dire quand même qu'il y a aussi une contrepartie, c'est-à-dire que là, actuellement, les personnes qui ont été arrêtées ou les personnes qui sont des contacts de ces gens-là, leur vie en Tchétchénie, elle est en danger. Et il faut que les pays de l'Europe acceptent de les accueillir. Donc, il y a Human Rights
Human Rights Watch.
Voilà, j'avais que les initiales et j'ai un peu bafouillé. Estime que les gouvernements occidentaux devaient fournir des refuges sûrs aux victimes.
Des refuges.
Oui, des refuges, oui. qui demeure exposée à un danger immédiat. Et moi, j'ai vu aussi, parce que je cherchais ce que Macron avait dit hier, j'ai vu qu'il y a eu des Tchétchènes qui sont arrivés en France, hein, des associations de soutien qui ont fait venir des Tchétchènes, parce qu'aussi, il faut les faire venir, il faut qu'ils traversent aussi la frontière. Il y en a certains qui sont partis se réfugier en Russie, mais la Russie, c'est quand même aussi un peu compliqué pour...
Les gens qui fuient la situation en Tchétchénie peuvent se revendiquer du droit d'asile, ça c'est une évidence.
Voilà, donc on va suivre tout ce qui se passe.
La Tchétchénie, c'est pas loin, quoi.
On est en Europe.
Tout à fait.
On va suivre les réactions de Poutine. Et c'est quand même très grave que, d'une façon très proche de la France, il y ait encore ces possibilités d'empêcher des gens de vivre comme ils veulent.
C'est clair. Enfin bon, un bon point à Macron quand même pour ça.
Ah voilà, on note.
Il a au moins le courage d'en avoir parlé ouvertement à M. Poutine. On dira plus notre ami.
Bah moi je.
Il y a Renan qui va peut-être vous dire une bonne nouvelle après ces nouvelles un peu dures.
Alors bon, moi je parlais de Chelsea Manning qui est enfin libre. Amnesty a fait campagne en faveur de la libération de Chelsea Manning depuis 2013, date de sa condamnation. Au-delà de la condamnation du sort réservé à cette lanceuse d'alerte, nous dénoncions le fait que sa peine de prison est beaucoup plus lourde que celle d'autres militaires, pourtant déclarés coupables d'homicide, de viol et de crimes de guerre. Mais qui et Chelsea Manning.
C'est ce que j'allais te demander.
Oui, on en a parlé, mais il y a déjà un petit moment.
C'est ce que j'allais te demander, Renan.
Chelsea Manning est une lanceuse d'alerte, témoin de possibles violations des droits humains et du droit humanitaire par l'armée américaine. Elle a décidé avec courage de diffuser des documents en lien avec ses crimes. Pour cet acte courageux, elle a été condamnée à 35 ans de prison et maintenue en outre en détention provisoire pendant 11 mois dans des conditions qui s'apparentaient, d'après le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, à un traitement cruel, inhumain et dégradant. En prison, Chelsea Manning a beaucoup souffert, n'ayant pas pu vivre selon son identité de genre. Lorsqu'elle était membre des forces armée américaine, elle a commencé sa transition sexuelle en prison. Or, les traitements nécessaires pour vivre selon son genre lui ont été refusés en violation de ses droits fondamentaux. Pour avoir tenté de se suicider, elle a été placée en détention et à l'isolement. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'elle est enfin libre.
Pour apporter juste une information complémentaire pour ceux qui ne connaissent pas, qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le dossier, c'est que c'était en fait c'était un transsexuel, donc c'était un homme au départ, enfin
tout
qui était catalogué homme au niveau de l'état civil. Il était donc militaire dans l'armée américaine. C'est là qu'il a découvert effectivement des choses qui le choquaient, qui les a divulguées, et parallèlement il a demandé à changer de sexe puisque c'était un transsexuel, donc maintenant effectivement il est devenu femme.
Et surtout qu'on voit qu'il est quand même 35 ans de prison, encore pire qu'il ait commis un viol, un crime de guerre, quoi. C'est alors qu'il a juste fait dénoncer, quoi.
Et c'est quelqu'un pour lequel Amnesty, les différentes sections d'Amnesty se sont mobilisées à plusieurs occasions. On a signé beaucoup de pétitions et beaucoup de courriers pour lui. Et c'est quelqu'un aussi qui a été très traumatisé dans sa détention, puisque de mémoire, je vous dis ça, mais je crois qu'il a fait deux tentatives de suicide, dont une l'année dernière.
Tout à fait. Et justement, Obama, si je me rappelle bien, avant de quitter justement le gouvernement américain, avait promis sa libération.
Oui.
Ça faisait partie au niveau de sa campagne.
Oui. Enfin, avec l'arrivée de Trump, on pouvait se poser des questions. Mais il n'a pas osé la remettre en cause.
Bon, moi, je pense qu'il est peut-être temps de faire une petite pause.
Musique.
On parle pas de Trump tout de suite, on avait prévu.
Ah, musique. Trump attendra.
Bon, alors, Trump après la pause. Brother against brother, but De retour sur l'antenne de Principe Actif. Donc, c'est pour la seconde partie de l'émission, le groupe d'Amnesty International Évreux. Pour l'émission sur la promotion et la défense des droits humains, on vient d'entendre Ricky Lee Jones, un disque il y a quelques années, mais qui est toujours agréable. Ricky Lee Jones, et le morceau s'appelle Tell Somebody. Le dire à quelqu'un, ce qui est aussi tout à fait important au sein d'Amnesty. Le dire
bah
à
moi,
quelqu'un.
J'ai envie de le dire à tout le monde.
Voilà, c'est ça. Il y avait, après le président Macron, il y avait dit qu'il voulait
Trump.
Faire continuer le tour,
vous
le tour
allez
des présidents.
Voir.
Maintenant, vous parlez du président Trump.
Voilà, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais depuis l'élection de cet ami Donald Trump aux États-Unis, ben c'est vrai que je suis attentivement ses bonnes idées, comme son décret migratoire. Et à chaque fois, j'ai le plaisir de vous dire que son décret anti-immigration a été retaqué par la justice américaine. Alors voilà, maintenant, la troisième fois, c'est ce jeudi 25 mai, nouveau revers pour Donald Trump et son décret migratoire. La justice américaine saisie en appel a maintenu ce jeudi suspension de ce texte controversé. Alors, j'aime bien aussi les attendus des juges. Je pense que ça vaut le coup. Donc, le Congrès a accordé au président un large pouvoir pour interdire l'entrée des étrangers. Mais ce pouvoir n'est pas absolu, a écrit dans la décision le juge Roger Grégory, avec un accent français, président de la Cour d'appel de Richmond en Virginie, dans l'est du pays. Ce pouvoir ne peut être incontrôlé quand, comme en l'espèce, le président y a recours à travers un décret qui porte des conséquences dommageables, irrémédiables pour des personnes dans tout le pays, ajoute ce juge. Donc là, c'est en plus le fond du décret qui est jugé. Alors, la Constitution des États-Unis interdit la discrimination religieuse et pour les opposants au décret, l'animosité de Donald Trump vis-à-vis de l'islam ne faisait aucun doute. C'est ce qu'ils avaient plaidé le 8 mai dernier, lors d'une audience solennelle devant la Cour d'appel fédérale de Richmond. Et en plus, ce qu'ils disent, c'est que la sécurité nationale n'est pas en jeu. L'avocat du ministère américain de la Justice avait lui assuré que le décret répondait à un problème de sécurité nationale lié à l'immigration d'individus potentiellement dangereux. « Nous avons gagné », dit l'avocat des associations qui soutenait que le président avait volontairement visé les musulmans dans son décret, violant ainsi la Constitution. Et ils ont réussi à convaincre 10 juges sur les 13 qui siégeaient et qui ont suivi dans les principales lignes le jugement de la première instance qu'avait rendu un juge de l'État de Maryland. Les magistrats d'appel se sont déclarés non persuadés que ce décret ait plus à voir avec la sécurité nationale qu'avec la concrétisation de la promesse du président d'interdire les musulmans. Le fameux décret ainsi que sa deuxième mouture avaient été bloqués par des tribunaux en février, en mars. Les deux suspensions ont été dénoncées par Donald Trump comme symptomatiques d'une justice politisée. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que ce dossier pourrait très probablement prendre la direction de la Cour suprême à Washington, qui tranchera en dernier ressort. En effet, Donald Trump s'est engagé à mener le combat jusqu'à la plus haute juridiction du pays. Mais il a quand même perdu 3 fois et les notifications des juges me semblent tout à fait intéressantes.
Oui, donc il se rend compte qu'il ne peut pas faire absolument tout ce qu'il veut comme il le veut, que c'est plus compliqué que ça, qu'il y a d'autres instances aussi qui décident.
Et qu'à pointer comme ça une population dans la totalité, alors que c'est absolument faux. Et je pourrais peut-être un petit point par rapport à ton état d'urgence, c'est un peu la même chose.
Bah, tu peux, je t'en prie.
Voilà, c'est qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et dire « ceux-là, c'est les méchants, nous, on les bons, on n'en veut pas ». Eh bien non, les méchants, il y en a partout, les bons, il y en a partout.
Et quant au commentaire de Donald Trump de justice politisée, c'est ça ?
Oui,
la justice,
c'est sympa quand on est président d'un pays voilà. Et qu'on juge ça. Moi, je trouve que ça
la
fait
la justice rend des décisions par rapport au droit. Donc effectivement, si on considère que le droit est politisé, c'est un autre problème. Et donc, maintenant, c'était Renan, je crois.
Oui, tout à fait, c'est
qui
moi.
Qui devait vous parler de quoi donc ?
Ah, Renan, qu'est-ce qu'il aime ? Réfléchissez bien.
Ah ouais, moi, c'est contre les armes, mais là, c'est une histoire de fou, quoi.
Contre les armes.
Et une histoire de fou pour les armes.
Contre
raconte
les armes.
Ça.
Ben, c'est une histoire de fou parce qu'il y a $1 milliard d'armes perdues en Irak.
Ah bon ?
Ils ont perdu des armes ?
Ils ont perdu des
qui
armes.
Qui donc les a perdues ? C'était mal rangé ?
Ah ben, je vais tout expliquer.
Allez, on écoute.
L'armée américaine reconnaît des lacunes dans le suivi de transferts d'armes et autres équipements militaires à destination de l'Irak et du Koweït d'une valeur de plus d'un milliard de dollars. Un audit réalisé par le gouvernement américain dès septembre 2016 révèle que le département de la Défense ne disposait pas d'archives précises et actualisées sur le nombre et la localisation d'une grande quantité d'équipements inondant le Koweït et l'Irak pour approvisionner l'armée irakienne. Cet audit donne un aperçu inquiétant du système défectueux et potentiellement dangereux, mis en place par l'armée américaine pour contrôler des transferts d'armes de plusieurs millions de dollars vers une région très explosive. Ceci est d'autant plus inquiétant au regard d'un passé marqué par des détournements d'armes américaines vers de multiples groupes armés, commettant des atrocités en Irak, notamment le groupe armé se désignant sous le nom d'État islamique. Ces transferts, qui englobent des dizaines de milliers de fusils d'assaut pour une valeur de 28 millions de dollars, des centaines d'obus de mortiers et des centaines de véhicules blindés, étaient destinés à être utilisés par l'armée centrale irakienne, notamment par des unités de mobilisation, populaire majoritairement chiites, ainsi que par les forces kurdes des Peshmergas. L'audit du département de la Défense a révélé plusieurs lacunes graves au niveau de l'enregistrement des équipements et du suivi à partir du point de livraison, notamment la mauvaise tenue des registres dans les dépôts d'armes au Koweït et en Irak, des informations enregistrées sur des multiples tableaux, bases de données et même des reçus écrits à la main, de grandes quantités d'équipements saisis manuellement dans de multiples tableaux, ce qui accroît le risque d'erreurs humaines, des registres incomplets ne permettant pas aux personnes responsables des équipements de vérifier avec certitude leur emplacement ni leur statut. En outre, dans l'audit, on pouvait lire que le département de la Défense n'avait pas la responsabilité d'assurer le suivi des transferts d'armes immédiatement après livraison aux autorités irakiennes, alors que le programme Golden Sentry du département a pour mission de réaliser les vérifications après la livraison. Une précédente évaluation du département de la Défense en 2015 pointait du doigt des procédures de suivi des stocks encore plus négligentes appliquées par les forces américaines irakiennes. Dans certains cas, l'armée irakienne ne savait pas ce qui était stocké dans ses propres entrepôts, tandis que des équipements militaires qui n'avaient jamais été ouverts ni inventoriés étaient stockés à l'extérieur dans des conteneurs maritimes. Donc il faut savoir que les transferts d'armes favorisent certaines atrocités. Nos recherches ont constamment mis au jour des contrôles insuffisants et des tenues de registre négligentes au sein de la chaîne de commandement irakienne. Aussi, des armes fabriquées aux États-Unis et dans d'autres pays se retrouvent-elles entre les mains de groupes armés connus pour commettre des crimes de guerre et autres atrocités, comme l'EI, ainsi que les milices paramilitaires désormais intégrées au sein de l'armée irakienne. En réaction à l'audit, l'armée américaine s'est engagée à resserrer ses systèmes de suivi et de surveillance des futurs transferts vers l'Irak. Donc je trouve que c'est quand même grave, quoi. Des armes qui disparaissent après, et surtout qu'après la campagne qu'on a fait contre l'arme, qu'on demande justement que chaque arme qui soit utilisée, on ait une traçabilité. Et là, l'armée, elle perd carrément...
Combien le chiffre que tu disais de...
Un milliard de dollars d'armes.
Ah oui.
Ah, je ne sais pas le prix, on divise par combien là?
Ça représente des dizaines de milliers.
J'ai aucune idée combien ça coûte.
Non, mais ils disent que ça fait des dizaines de milliers de fusils d'assaut, des tanks, hein. Mortiers et tout ça, qui se retrouvent après entre des mains de personnes
pas forcément.
Et après, on nous demande de prendre des mesures pour contre les attentats terroristes du style état d'urgence, par exemple. C'est un peu le monde à l'envers, quoi.
Parce que alors
qu'au départ, on leur laisse piquer, excuse-moi Renan, mais on leur laisse entre guillemets piquer les armes et puis s'en servir. Donc,
Et quand tu vois des milliers de fusils d'assaut, après on se demande comment les gens ils arrivent en France armés comme ça.
Ça fait tout un, des ventes souterraines, tout un secteur qui doit exister.
C'est certainement qu'il y a des bakchiches, il y a de l'argent en jeu, hein, parce que ça mettrait avec des armes, des tanks, ça disparaît pas comme ça.
Ce qui est absolument.
Ils avaient mal garé. Mais en plus,
il n'y a aucune traçabilité parce que dans les registres, ils sont même pas marqués.
Oui, c'est ça. Ce qui est hallucinant, c'est qu'après l'armée américaine dit mais on ne tient pas de compte précis des armes qu'on a, machin. Il y a des moments où tu te dis quand même, quand on entend ce genre d'affirmation, c'est complètement, c'est cousu de fil blanc, quoi. Je veux dire, j'y crois pas deux minutes.
Parce que normalement, ces armes.
Ils vont pas dire le contraire, mais j'y crois pas deux minutes que ce soit vrai.
Et ces armes, normalement, étaient offertes, entre guillemets, à l'armée irakienne, c'est pour les aider, tout ça. Et en fin de compte, ils sont partis.
S'ils les offrent, ils tiennent quand même des registres de ce qu'ils produisent et de ce qui circule dans leur
main. C'est cadeau, c'est donné. C'est donné, ils en font ce qu'ils veulent.
J'y crois pas du tout, quoi. Je veux dire, c'est vraiment.
Voilà, c'était un petit peu.
C'est vraiment des arguments bidons pour essayer de se justifier.
Parce que quelque part, on fait une contrôle pour la traçabilité des armes. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, mais dans quel monde on est, quoi?
Ben oui, dans un monde où on peut piquer des armes et s'en servir après.
Complètement.
Et problème, armes, c'est des gens tués, de toute manière, à la fin.
Et tu as bien fait de dire, effectivement, que c'est une raison de plus pour continuer à se mobiliser pour le traité sur les armes, qui a été signé, mais qui est encore si peu appliqué.
Quand tu vois ratifié, ça...
Ratifié, mais voilà, il y a des pays...
Et oui, on a encore du boulot, mais bon, on est là pour ça.
On lâche rien.
Alors...
Edith,
je vais parler du sport.
Tu veux parler
ça
du sport ?
Ça me va bien, ça.
Bon, ben, vas-y, parle du sport.
Eh ben, le foot. Oui. Allez, oui. Vos pronostics.
Tu parles pas de tennis, c'est Roland Garros ?
Non, je m'occupe pas. Tennis, la petite baballe, c'est trop petit.
Te connaissant un petit peu, ça serait dans le Pichot, non ?
Ouais,
il y a eu un match d'inauguration mercredi.
Ah, il connaît tout, Ronan. C'est pas possible. Eh ben, c'est dans le pays...
Bah moi, je dirais le Qatar.
Ouais, trop fort. Parce que qu'est-ce qui va se passer en 2022 au Qatar ?
Il n'y a pas une Coupe du Monde.
D'abord, tout se passe dans ces pays. Ouais, une Coupe du Monde dans un pays avec des stades climatisés, avec de la connerie.
Oui, mais bon.
Pour construire ces beaux stades climatisés, je ne dirai pas ce que Ronan a dit après, mais pour les construire, il faut faire venir plein de personnes. Et ça fait un an qu'Amnesty a déjà fait un rapport par rapport à la condition de vie des immigrés qui construisent ces stades. Et malheureusement, on se rend compte que rien n'a changé. Oui, effectivement, Ronan, ce vendredi soir 19 mai, on a inauguré le stade international Khalifa, l'un des joyaux du Qatar. C'est un stade qui a été... pas complètement construit, mais qui a été rénové en vue de la Coupe du Monde. Et les entreprises chargées de la rénovation ont violé systématiquement le droit des travailleurs. Donc, nous, on a fait un rapport, on dit que rien n'a changé. Et alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a un nouvel audit qui a eu lieu dernièrement. Donc, c'est une entreprise indépendante d'audit, Impact Limited, qui a montré que les violations se poursuivent. Malgré les tentatives de la FIFA,
Fédération internationale de football.
Ah, c'est facile quand on lit sur ma feuille, franchement.
Bien
que ne regardant pas les matchs de foot,
Les gars, ils savent ça quand même.
Bah,
alors, la
FIFA,
elle a essayé de redorer l'image du tournoi. Bon, alors, cet audit, je trouve que c'est intéressant. Il a pris 10 entrepreneurs de la Coupe du Monde choisis au hasard sur un total de 147. Il a identifié tout un éventail, oui je dis cet audit et il, mais c'est l'entreprise, a identifié tout un éventail d'atteintes aux droits humains dans le cadre des projets de la Coupe du Monde. Notamment, 79% des travailleurs ont signalé avoir payé des frais de recrutement, ce qui est interdit. Les entrepreneurs font travailler les employés pendant des heures excessives et la moitié d'entre eux ne leur accorde pas de jours de repos. Alors écoutez bien. Une personne a par exemple travaillé sans un seul jour de congé pendant près de 5 mois, ce qui fait 148 jours. Tout ça pour construire un stade, je vous rappelle.
Oui.
25% des travailleurs d'une entreprise ont déclaré qu'ils préféraient ne pas signaler des problèmes en matière de santé ou de sécurité par peur des représailles.
Oui. Il y a Edith qui cherche
la suite de son
article.
Eh bien non, je l'ai retrouvé. Vous aurez la suite. 4 de ces entreprises sondées détenaient les passeports de ces employés, ce qui peut constituer une infraction au regard de la loi qatarienne. Oui, c'est facile. Ils arrivent, les immigrés.
On leur prend leur passeport.
On leur prend leur passeport et on leur dit bosser.
Ouais. Et on leur rend pas. Comme ça, ils sont prisonniers sur place.
Tout à fait. Et en plus, ils doivent payer rien que pour s'inscrire sur les entreprises. Donc, l'entreprise d'audit a estimé qu'il y a eu quelques progrès, mais que les atteintes aux droits humains ont été recensées dans les 10 entreprises testées au hasard. Donc, effectivement, le stade Khalifa est le premier site de la Coupe du Monde à ouvrir ses portes pour accueillir la finale, la Coupe de l'Émir. Alors, les deux grands rivaux, je vous le dis juste par curiosité pour ceux qui adorent le foot, c'est Al Rayyan et Al Sadd. Ils ont joué ensemble le 19 mai. Mais ce qu'il y a en plus, c'est que quand on aura construit tous ces stades, il va aussi avoir... Parce que le Qatar, il est un tout petit pays. Donc, il va falloir faire venir des gens pour les entretenir. Et si c'est aussi dans les mêmes conditions de violation des droits des travailleurs et des droits humains, le football va vraiment être un sport pas du tout sympa à regarder.
Ben oui, effectivement.
Ça fait longtemps que, pour ma part, je trouve plus du tout sympa à regarder.
Voilà, surtout qu'on, voilà, les, que ça soit le Qatar qui a eu.
C'est un avis personnel.
C'est pas, oui, enfin, c'est pas un problème de foot, c'est un problème.
C'est un problème de fric.
L'utilisation qui est faite.
Ah
oui,
par non,
rapport
c'est le fric. C'est le fric qu'il y a derrière.
Voilà.
C'est ça que je veux dire. C'est pas le foot en lui-même, c'est pas le sport lui-même.
Par rapport à un jeu, par rapport à un sport qui devrait de n'être qu'un jeu et un sport. Et qui devient effectivement une machine à broyer des gens pour des raisons d'argent et des raisons de prestige et des raisons très diverses.
Alors qu'à l'origine, c'était comme le sport du peuple, c'était les gens, et, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu.
Voilà, donc,
La campagne qu'a fait Amnesty l'année dernière qui s'appelait, Rodon, tu te rappelles, par rapport au Qatar, j'aime le foot. Ça commençait comme ça.
Ouais,
j'aime le foot.
Là, tu me pièges parce que je l'ai su.
C'était j'aime le foot, pas le travail forcé.
Voilà. Voilà. Et en plus, il y avait des badges ou des autocollants qu'on avait.
Ben, je pense que 2022, on est en 2017, les 5 années à venir, on va continuer à essayer de faire que le Qatar et ses entreprises et la FIFA améliorent encore le sort des travailleurs.
Enfin, il y a un truc à retenir, tu disais, Edith, c'est que donc la société d'audit a testé 10 sociétés et qu'il n'y en a pas une qui est passée
au travers. Ça fait quand même peur.
Il n'y en a pas une qui est passée au travers en disant qu'elle était clean par rapport au respect des droits des travailleurs.
Il y a quelques petites améliorations, mais il y a encore le pauvre gars qui a travaillé pendant 5 mois.
Ouais.
On n'arrive pas à imaginer.
Bien.
Voilà, Didier. Tu nous parlais un peu de la grande campagne.
J'ai prévu de. Mais alors, on va peut-être un peu changer les plans parce que j'avais prévu de vous faire un dossier sur qui faisait suite à ce que j'avais dit la dernière émission sur la campagne sur les défenseurs des droits, une grande campagne qui est reprise par Amnesty sur la défense des défenseurs des droits, puisque les gens qui s'investissent et qui mouillent leur chemise, pourrions-nous dire au sens le plus large du terme, pour défendre les droits humains, sont de plus en plus inquiétés, réprimés, incarcérés, jugés, dénigrés, etc. La campagne, ça, encore une fois, le rapport complet est paru sur le site, il y a une quinzaine de jours sur le site d'Amnesty. Moi, je l'ai lu, effectivement, n'hésitez pas à y aller. Vous allez sur le site amnesty.fr et vous cherchez le rapport qui s'appelle « Défendons-les ». Défendons-les, tout simplement. Et vous aurez le rapport, il fait une cinquantaine de pages, mais c'est très intéressant à lire. Donc je voulais vous évoquer ce rapport et vous en faire un petit résumé, surtout des recommandations qui sont faites par Amnesty. Mais j'avoue que là, on va manquer de temps de le faire avec le minimum de temps nécessaire. Donc je vais reporter ça à l'émission d'après.
Voilà, mais tu peux peut-être nous introduire, parce que chez Cronan, il a envie de parler de la situation d'une personne. Moi, j'ai aussi un petit peu envie de parler de la
Alors,
Turquie.
Juste... Ouais, c'est un portrait que j'aimerais bien faire. Ouais,
Alors je vais juste vous lire la fin, les trois dernières phrases de la présentation qu'en fait le secrétaire général d'Amnesty de ce rapport. Le secrétaire général qui s'appelle Salil Chetty et qui conclut son introduction en disant « Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin que des personnes se dressent courageusement contre l'injustice et contre ceux qui portent atteinte aux droits humains en échange de fausses promesses de prospérité et de sécurité. Nous avons tous le pouvoir de contester les discours toxiques et de lutter contre l'injustice. Tous ensemble, nous pouvons faire changer les choses. Soutenons le courage, osons le courage, protégeons-le, protégeons le courage, défendons le courage, soyons le courage. » Et je trouve que ça aussi, c'est une belle phrase pour Amnesty. Donc voilà, vous en saurez plus en écoutant l'émission dans 15 jours, parce que je développerai plus ce que j'avais prévu de vous dire aujourd'hui.
Et si on parlait de la liberté d'expression, ça irait bien dans...
Ah ben complètement. La défense des droits humains, c'est aussi un combat pour la liberté d'expression. Ça en fait partie, bien évidemment.
C'est pour ça que je voulais partir. Ben, on reste dans l'Est. On va partir en Azerbaïdjan. Et je voulais parler
Où ça ? J'en fais exprès. Azerbaïdjan ?
Ouais, un truc comme ça.
Après la Tchétchénie.
C'est pas très loin la Tchétchénie.
C'est les petites... C'est pas très loin. C'est pas très loin. République
autour. C'est au nord de l'Iran.
Donc, je voulais vous faire un petit portrait. Vous parler de Khadija Ismailova, qui a été attaquée pour son travail journalistique. Il faut savoir qu'en Azerbaïdjan, critiquer ouvertement le régime se paie le prix fort. Pour son travail d'investigation courageux, Khadija, journaliste réputée et lauréate de nombreux prix prestigieux, est victime de campagnes de diffamation et de détentions arbitraires. Malgré le système répressif en place dans ce pays, Khadija n'a pas hésité à publier des articles en Azerbaïdjan dans lesquels elle dénonce la corruption et les violations des droits humains. Elle a entre autres enquêté sur les liens qui existeraient entre la famille du président Ilham Aliyev et un nom compliqué. Et un projet de construction lucratif envisagé à Baïkou, la capitale du pays. Son courage lui vaut d'être pris pour cible par le gouvernement. En Azerbaïdjan, pour faire taire les opposants et ceux qui dérangent le régime, plusieurs techniques existent. La première vise à dénigrer la personne visée afin de la stigmatiser et délégitimer son travail. C'est ce qui est arrivé à Khadija. Le 7 mars 2012, elle reçoit une lettre contenant des images la montrant en plein acte sexuel après que des inconnus se seraient introduits dans son appartement pour cacher des caméras dans sa chambre. Ces images étaient accompagnées d'un message menaçant. Il lui ordonnait d'abandonner son travail sans quoi elle serait couverte de honte. Elle refuse et dénonce publiquement cette tentative de chantage. La presse a aussi publié des articles reprochant à sa mère le mode de vie honteux de sa fille et prétendant qu'elle et sa sœur étaient apparues dans des films pornographiques. Khadija, ayant refusé de se taire, elle est poursuivie à plusieurs reprises. En décembre 2014, elle est placée en détention provisoire sur des charges fabriquées. La veille de son incarcération, le chef du cabinet du président Ramitch Bedichliev accuse des journalistes
Azerbaïdjanais
de trahison et déclare que Khadija est un parfait exemple de journaliste travaillant contre le régime. La criminalisation ne s'arrête pas là. Entre 2015 et 2016, elle est détenue arbitrairement pendant plus de 8 mois sur la base de charges inventées de toutes pièces, notamment de détournement de fonds, d'entrepreneuriat illégal, d'évasion fiscale et d'abus de pouvoir. Elle est condamnée à 7 ans et demi de prison, bien qu'elle ait été libérée par une décision de la Cour suprême en mai 2016. Elle n'a pas été acquittée. Donc la création de fausses accusations est souvent utilisée en Azerbaïdjan pour gagner...
Azerbaïdjan. Tu fais un blanc, puis on le dit pour toi.
Tu répètes 10 fois
la création de fausses accusations est souvent utilisée en...
Azerbaïdjan.
C'était mieux que moi.
Pour condamner à la prison toute personne osant formuler des critiques publiées à l'encontre du gouvernement.
Et c'était quel pays dont tu parlais?
Dans l'Azerbaïdjan. Voilà.
Donc tout ça pour dire qu'en Azerbaïdjan... On a, comme dans beaucoup de pays, malheureusement, dans le monde, dès qu'on dit ce qu'on pense, ben justement, on est...
Ce que tu viens de dire, ça m'a fait penser à ce que je voulais vous dire, mais je vous dirai la prochaine fois sur le dossier...
Donc tu vas quand même nous le dire, si tu nous le dis maintenant, ça ne sera pas la prochaine fois.
Sur le dossier Défendons-les pour la défense des défenseurs des droits humains, c'est que tu disais que donc, une des méthodes qui a été utilisée contre elle, c'était de l'accuser d'avoir participé à des sites pornographiques ou je ne sais pas quoi.
Oui, à des films pornographiques.
Alors ça se généralise, c'est ce qui est manqué dans le rapport d'Amnesty, effectivement, c'est de circuler ce que s'appelle des trolls. J'ai appris le mot. Ça s'appelle des trolls. C'est envoyé sur Internet et on publie un certain nombre de choses.
Les trolls, ce n'est pas des petits personnages, non?
Oui. Eh ben, c'est, oui. Sur Internet, ils ne sont pas rigolos du tout.
Mais on accuse les gens qui défendent les droits humains d'être des pornographes, d'être des trafiquants de drogue, d'être des gens qui pratiquent l'inceste, en fait, etc.
En fin de compte, c'est lancer une contre-information.
Exactement. Et c'est surtout pour les salir au niveau de leur réputation, de leur morale et vis-à-vis de leur famille et vis-à-vis des autorités. Et c'est une pratique qui se généralise. Donc c'est aussi le but de la campagne d'Amnesty, c'est aussi de lutter contre ce genre de dérive absolument sordide.
Parce que là, ils ont carrément envoyé le film.
Est-ce que je peux avoir l'air un peu aussi éducative, là?
Vas-y.
En disant qu'effectivement, si les gens...
Tu n'as pas que l'air.
Mais, et la liberté d'expression, vas-y.
Ouais, non, mais si les gens arrêtaient de croire tout ce qu'il y a sur Internet sans aller vérifier, c'est aussi une très, très mauvaise habitude. Et c'est pour ça que ces trolls ont de plus en plus de force et de poids, parce que par un mail ou quelque chose comme ça, on peut le diffuser à plein de monde. Et effectivement casser quelqu'un.
Et moi qui suis, c'est vrai que je vais beaucoup sur Facebook, je dis toujours il faut faire attention. Quand je vois le nombre de personnes qui relaient des informations,
absolument,
sans
qui
faire
relaient.
Attention à ce qui est, et il y a énormément de gens qui tombent dans le piège. Quoi.
Évidemment.
Ils relaient des trucs et t'as tout le monde, parce que c'est écrit, c'est marqué.
C'est la rumeur.
Parce que c'est écrit, parce que c'est marqué, donc c'est la vérité.
C'est ça.
Et voilà. Et donc les États qui veulent casser un peu les gens qui veulent s'exprimer, eh bien, ils savent que ça peut marcher.
Mais nous sommes là pour dire la vérité.
On parlait tout à l'heure.
Et elle est forte, oui. Khadija.
Oui, oui. Elle est très forte
parce qu'elle a continué.
Ah, oui, oui.
Et elle ne s'est pas écrasée sous ses médisances.
Tout à fait.
On parlait tout à l'heure de Macron et de la réception qu'il a fait de ce qu'il a dit à Poutine. Et ça m'a fait, en écoutant ça m'a fait penser, j'ai entendu ça aussi aux informations à la radio, qu'en fait, il avait dit aussi à M. Poutine, enfin à la délégation qui l'accompagnait, et parce qu'il y avait certains journalistes russes qui protestaient du fait que l'équipe Macron a refusé de recevoir parmi les journalistes russes ceux de deux sites, de Russia Today, un site d'information, Russia Today, et de Sputnik. Et Macron a expliqué très clairement une chose qui est absolument vraie, en disant « Vous n'êtes pas, ces gens-là qu'on ne reçoit pas, ne sont pas des journalistes. Ce sont des gens, effectivement, dont le but est de propager des rumeurs et de salir les gens. Entre autres, ils ont sali des gens de l'équipe de Macron, mais peu importe. Et de salir des gens, ce ne sont pas des journalistes. Ils n'ont rien à faire dans un débat, effectivement, d'information. Et il est absolument hors de question que l'État français les reçoive comme tels. Donc, on les a laissés à la porte. » Et il a eu le courage, effectivement, de dire ça aussi à Poutine, ce qui n'était quand même pas rien. Voilà.
Allez, un demi-point en plus.
Non, mais de dire qu'effectivement, que Sputnik et Russia Today, qui sont des sites orduriers de fausses informations, étaient des sites bidons et des sites de médisance et absolument pas des sites de journalisme, c'était effectivement une vérité qu'il fallait reprendre.
Et un mauvais point pour Poutine, parce qu'il les avait emmenés avec lui. Il croyait que ça allait passer. Il les utilise au quotidien,
Pour ne rien cacher, Edith, ce sont deux sites qui sont financés directement par le Kremlin.
Et ceux qui ont un peu enquiquiné les élections, voilà, on pourrait dire
c'était
qu'ils... Voilà, c'est un peu les mêmes, c'est un peu ce qui me semblait.
C'était les mêmes. Aux États-Unis, c'était les mêmes qui relayaient aussi.
Et puis Macron et compagnie, voilà.
Bien. Donc, on ne va peut-être pas avoir même pas le temps de faire la deuxième pause musicale, parce qu'il est 55. On fait quoi? On passe quelques secondes de musique et on termine par les infos locales.
Allez, musique.
Bien de retour sur l'antenne de Principe Actif, donc Amnesty International Evro. On vient d'écouter quelques secondes de Bruce Springsteen.
Désolé.
High Hopes, le titre du morceau.
Des espoirs
haut placés. Et c'est bien ce qui caractérise Amnesty et le combat d'Amnesty. Des espoirs haut placés, toujours. On va terminer l'émission avec une info qu'on relaie d'une association qu'on aime bien. On est très amis avec eux, qui est le collectif étranger français pour l'égalité des droits. Voilà notre amie Claire Lise.
Un petit coucou au passage.
Mais attendez que j'annonce quand même.
Non, mais un petit coucou à Claire Lise.
Donc le vendredi 16 juin à 17h30, on en reparlera à la prochaine émission, mais on vous le dit maintenant. Le vendredi 16 juin à 17h30, hôtel du département à Évreux, il y a une conférence débat qui a pour thème « Arriver en France, mais quel accueil ?»
Et « Arriver », ça s'écrit EES.
Voilà.
Ça, c'est important.
Ce sont pour les femmes qui sont demandeuses d'asile en France et qui sont migrantes en France. Arriver en France, mais quel accueil ? Point d'interrogation. Donc, conférence débat, vendredi 16 juin 2017 à 17h30, hôtel du département, avec, en présence de Lola Chevalier de la FASTI. Alors, je ne sais pas ce que c'est que la FASTI.
C'est des mouvements d'accueil de...
Voilà. Et d'une avocate qui s'appelle Églantine Mailleux, d'un cabinet qui s'appelle Eden Avocat. Donc, vous pouvez déjà noter sur vos agendas, vendredi 16 juin, conférence débat, hôtel du département Évreux, organisée par le CEFED,
nos amis du CEFED. C'est ouvert aux associations, aux particuliers, Sans problème.
Voilà. On se retrouve le...
Le mardi 13 juin.
Voilà.
À noter d'ici votre agenda.
À 19h. Et d'ici là, bah, il nous reste à vous souhaiter une bonne fin de soirée. Et puis à très bientôt.